direct de Washington.
Bonsoir à tous, merci Rosine. Yacouba Ouédraogo effectivement avec vous, ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Et comme chaque semaine, nous revenons sur les résultats et les faits sportifs marquants. Dans ce numéro de Sporama de ce lundi 30 septembre, nous parlons de la Super Coupe CAF, du CHAN 2025 à venir, du Mondial de Futsal et bien évidemment du décès ce lundi de la légende Dikembe Mutombo, ancien basketteur congolais de la NBA. Avec nous, d'ici là, on va retrouver nos consultants habituels, Jules Valentin Ngwe, Amine Birouk, Amdine Sy et Élisée Mpatine. Mais au téléphone, présentement avec nous, deux personnes qui connaissent très bien Jules Valentin Ngwe, Roger Muntu, mon collègue, qui l'a interviewé plusieurs fois. Roger, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir Yacouba, merci.
Avec nous également Claude Kamana, il est le président de la communauté congolaise dans la région de Washington, Maryland et de Virginie. Il est l'ami intime de Dikembe Mutombo. Monsieur Kamana, bonsoir et merci une fois de plus de nous rejoindre.
Bonsoir Monsieur Yacouba.
Merci à tous de votre présence et à vous, chers auditeurs, de rester à l'écoute. Nous consacrons une grande partie de ce Sporama à cette triste nouvelle, le décès du Congolais Dikembe Mutombo, mort ici aux États-Unis. Dikembe est membre du Panthéon du basketball américain. Il est décédé à l'âge de 58 ans des suites d'un cancer du cerveau. Selon l'annonce faite par la NBA, le Congolais a été sélectionné 8 fois comme All-Star de la NBA, utilisant son énorme gabarit 2m18 pour devenir l'un des plus redoutables bloqueurs de tir de la Ligue. Alors, M. Claude Kamana, je commence par vous. Vous qui êtes l'ami intime de Dikembe Mutombo, dites-nous comment vous avez appris son décès.
Très bien, merci M. Yacouba. J'ai appris le décès de mon frère Dikembe Mutombo ce matin vers 8h. D'habitude, j'appelle mon frère Philo, son grand frère qui est là-bas en Atlanta, qui me donne des informations, l'évolution de sa santé. Mais ce matin, je l'ai trahi et je m'en suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et après, je suis allé dans mon téléphone pour regarder les textes. Et c'est là que j'ai vu qu'il m'a dit que ton frère ne plus. Alors, j'étais vraiment, je ne savais pas quoi faire. Et je me suis dit, je vais encore lui rappeler, insister là-dessus.
Alors,
j'ai rappelé, c'est là que j'ai bien
évidemment, Monsieur Kamana, on le constate, vous êtes encore sous le choc. Roger Muntu, vous avez interviewé Dikembe Mutombo dans l'une de ses rares interviews qu'il a accordées avant, bien sûr, de rentrer à l'hôpital. Qu'est-ce que ça vous fait d'apprendre ce matin que Dikembe Mutombo est décédé?
Alors, merci encore une fois, Yacouba. Et je commence par présenter mes condoléances au président Claude Kamana, qui est l'ami intime de Dikembe Mutombo, qui m'a introduit à...
Allô, monsieur Kamana.
Oui. Allô?
Oui, vas-y, Roger, on t'entend très bien.
D'accord, parce que j'entendais quelqu'un. Alors, pour répondre à cette question... Yacouba, ce que ça me fait, c'est une grande tristesse, parce qu'il faut quand même savoir que c'est la NBA qui perd l'un des plus grands défenseurs de son histoire, et c'est énorme. Mais au-delà de ça, moi je pense que ce qui me fait plus mal, c'est pendant nos différentes interviews que j'ai eu à faire avec Dikembe Mutombo, il parlait plus de son côté humanitaire, ce qu'il essayait de faire pour son peuple, pour son village, pour sa ville, pour son pays, pour l'Afrique en général, et ce qui va rester marqué au fait en moi, Yacouba.
Alors, on va rejoindre Amdine Sy, qui nous rejoint depuis, bien sûr, l'Ohio, ici aux États-Unis. Amdine Sy, vous connaissez très bien Dikembe Mutombo, vous qui êtes le monsieur basket de Sporama. Alors, parlons maintenant du basketteur que vous connaissez, Dikembe Mutombo. Dites-nous, pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr, le Congolais, qui est ou qui était Dikembe?
Voilà, Yacouba, je présente d'abord mes condoléances à tous les sportifs du monde, puisque Dikembe était d'abord un sportif mondial avant d'être un sportif africain. C'est une grosse perte pour le sport africain, car c'est une légende, Yacouba. D'abord par sa carrière. Sa carrière, l'ancien pivot congolais faisait partie non seulement des meilleurs défenseur de la NBA, mais c'est déjà un pionnier, puisque il fait partie des l'un quand même des basketteurs originaires en Afrique qui a été le premier à jouer en NBA. Donc, c'est un pionnier dans ce qu'il faisait. Maintenant, si on parle de la longévité, 19 ans en NBA, il fallait le faire et il l'a fait. Il a joué 19 ans en NBA dans beaucoup de clubs, notamment à Denver, à Atlanta, à Philadelphie, à New York et à Houston. Sur le parquet, 8 fois All-Star, 4 fois meilleur défenseur, ça c'est Dikembe, 3 fois meilleur contreur, 2 fois meilleur rebondeur. Dikembe était tout simplement phénoménal. Il a fait beaucoup de choses sur le parquet. Il était également humanitaire, comme l'a dit l'un des intervenants. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises parce qu'à chaque fois, Amadou Gallafa se déplaçait au Sénégal, il était à ses côtés. D'ailleurs, en 2010, il est venu visiter les installations du village SOS d'enfants pour faire quelque chose. Il a été accompagné par Taco Fall, Amadou Gallafa et toute la délégation de la NBA Afrique. Donc, Dikembe est vraiment un exemple, quelqu'un qui faisait tout pour l'Afrique. À chaque fois qu'il se déplaçait, il disait, tu voyais tous les jeunes autour de lui, les jeunes qui voulaient réussir au niveau du basket. Et il les prodiguait des conseils, comment faire pour réussir au niveau du basket international. Vraiment, aujourd'hui, j'ai le cœur meurtri, parce que c'est une légende qui s'en est allée, mais un humanitaire, parce que moi, ce que je retiens, surtout des sportifs, c'est essayer de donner au sport ce que le sport a donné. Et je pense que dans ce domaine, Dikembe était vraiment extraordinaire, Yacouba.
Justement, après avoir pris sa retraite en 2009, Dikembe est devenu le premier ambassadeur mondial de la NBA, mais surtout, il a contribué à promouvoir le sport en Afrique, mais pas que. Alors, je ne sais pas si Claude Kamana est toujours avec nous et si on a peut-être ce petit problème. Et donc, et Roger Moutou, bien sûr, qui est toujours avec nous sans doute. Roger, alors, on va parler du côté humain de Dikembe. Il a beaucoup réalisé aussi dans son pays, la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ses investissements en RDC? Roger Moutou.
Allô? Oui?
Oui, allez-y.
Ok, c'est Claude Kamana ici.
Oui, allez-y Claude.
Il y a tellement beaucoup de réalisations que Dikembe Mutombo a fait, plus précisément au Congo, en RDC, à Kinshasa. Premièrement, il a construit un hôpital moderne, que moi-même j'ai eu la chance, l'opportunité d'aller visiter cet hôpital. C'était sous le nom de sa maman, Marie Biamba Mutombo Hospital. Et en dehors de cela, Mutombo a beaucoup investi en Afrique, un peu partout. Hein. Il a aidé beaucoup de jeunes talents. Et puis, il a encore construit une école dans son village natal où il a il a nommé ça derrière le nom de son papa, papa Samuel Mutombo. Donc Mutombo, vraiment, c'est quelqu'un que nous avons vraiment perdu ce matin. Je suis dans le choc, ça me dépasse. Hein, je n'arrive pas à voir parce que je passe beaucoup du temps avec ce monsieur, mon frère Dikembe.
Justement, vous allez nous parler peut-être d'une de ces anecdotes que vous avez eues avec Dikembe. Vous qui êtes arrivé ici pratiquement à la même année, 87-88, je pense, vous deux, vous êtes retrouvés aux États-Unis, vous avez passé beaucoup de temps ensemble, vos familles se connaissent et se côtoient. Dites-nous, l'homme avec sa taille 2m18, comment il vivait au quotidien en dehors du basketball?
Wow. Pour moi, Dikembe, comme j'étais avec lui tous les jours, tout le temps, c'était normal pour moi. Mais quand nous étions dehors, en route, dans d'autres endroits. Les gens étaient tout le temps curieux et souvent il y avait des jeunes qui venaient. Ils regardaient d'abord ses chaussures et se demandaient mais quel numéro de chaussures que vous portez. Je me rappelle des Kembe lui porte 22, 24. Alors ils essayaient de comparer leurs chaussures avec les chaussures de Dikembe. Hein? Et puis, je me rappelle aussi à un moment, hein, parce qu'on est restés ensemble, on était des célibataires, hein, et une fois là, on s'est dit, bon, on va essayer de préparer. Alors moi, je ne sais pas vraiment préparer. Alors Dikembe, on est parti, comme lui, il aimait bien le poisson, il est parti, on a acheté des saumons, on est venu là, on a préparé. Moi, je dis, ah, mais c'est quand même très bien ici, Dikembe. Il me dit, mais moi, je suis Mwanamboka, je sais comment préparer. Ma maman m'a montré. Moi, je dis, ah, Dikembe, toi là, il faut montrer comment préparer. Alors, il y a tellement beaucoup de choses qui m'apprenaient, qui me disaient. Donc, je lui manque déjà, Et son sourire, chaque fois, il m'appelait souvent Zach Claude. Au lieu de dire Monsieur Claude, il me dit Zach Claude. Donc, il y a tellement beaucoup de choses que je peux parler sur ce monsieur-là.
En tout cas, merci beaucoup Claude Kamana. Je rappelle que vous êtes le président de la communauté congolaise dans la région de Washington DC, Maryland et de Virginie. Et vous êtes l'ami intime de Dikembe Mutombo, décédé ce lundi à 58 ans ici aux États-Unis. Une fois de plus, toutes nos condoléances à vous et à vos différentes familles. Et bien sûr, toutes nos condoléances à tout le peuple congolais. En tout cas, merci d'être disponible depuis ce matin dans nos différentes émissions.
Merci, c'est moi qui vous remercie, M. Yakuba. Nous pleurons notre frère Dikembe.
Alors, Roger Moutou nous a retrouvés. Roger, très rapidement, sur Dikembe Mutombo, malheureusement, on avait perdu la ligne entre-temps. Qu'est-ce que vous retenez de l'homme?
Pardon, Yakuba, ça s'est coupé, j'entends pas.
Oui, Roger, je demande, qu'est-ce que vous retenez de Dikembe Mutombo, en définitive?
Alors, en bref, je retiens un homme au grand cœur, en tout cas, parce que n'oubliez pas, rappelez-vous, Yakuba, qu'il a construit un hôpital à Kinshasa, qu'il était en train de construire une très grande école dans son village natal, où il n'y avait presque pas d'école. Les élèves n'ont pas de banc, ils n'ont pas de cartable, ils n'ont pas de frais de scolaires, et donc, pendant, avant juste d'être hospitalisé, il était en train de construire une très grande école où non seulement les élèves allaient étudier dans des bonnes conditions, mais il y avait un internat à côté. Il y avait aussi un restaurant pour la cantine, comme on dit, pour nourrir ces élèves. Et ça, c'est ce que je veux retenir de l'homme.
Merci en tout cas, Roger Moutou. Je rappelle que vous êtes mon collègue ici à la Voix de l'Amérique. Vous êtes un frère et un ami à Dikembe Mutombo, décédé donc ce lundi, je le rappelle, à l'âge de 58 ans. Merci en une fois de plus d'être intervenu dans cette émission Sporama.
Merci, Yakuba.
Nous parlons à présent de football avec la Supercoupe de la CAF 2024 qui a été remportée par le Zamalek qui a vaincu à la Ligue au tir au but après un match nul d'un but partout. C'était vendredi soir à la Kingdom Arena de Riyad en Arabie Saoudite. Élisée Mpatin, bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez, vous intervenez depuis Boïcon. Non, Élisée ne m'entend pas. Alors, Amdinsi, le Zamalek qui s'impose finalement dans cette super coupe CAF devant Al Ahly, ce n'était pas donné.
C'était un derby qui a répondu aux attentes, il faut le dire, Yakuba, puisque...
If you'd like to make a call, please hang up and try again. If you need help, hang up and then dial your operator.
Le match s'est déroulé dans une très très bonne ambiance avec beaucoup de supporters égyptiens. Le stade était plein à craquer et sur le rectangle vert aussi, on a vu du spectacle et du beau spectacle. Comme on s'y attendait, les joueurs de Al Ahly ont ouvert le score à la 35e minute sur un penalty transféré par Abou Ali. Après, il y a eu quand même une interruption du jeu puisqu'il y a eu beaucoup de protestations de la part des joueurs de Zamalek. Finalement, la partie a repris et le Zamalek a pris les choses en son compte ils ont dominé cette formation et à force d'attaquer, ils ont fini par égaliser à la 77e minute par Nasser. Ensuite, ils ont géré le match jusqu'à la fin du temps réglementaire. À égalité parfaite, hein, un but partout, il fallait passer à la série de tirs au but pour départager les équipes. Et là, les joueurs de Zamalek ont été plus adroits, hein, et ils ont réussi 4 tirs contre 2 pour les joueurs de l'Akhli qui ont raté 2 pénalties. Et finalement, c'est les Zamalek qui créent la surprise, hein, puisque c'est Al-Akhli qui était favori, Al-Akhli détenteur quand même du titre, 8 titres, hein, de super coupe. Et Zamalek a finalement remporté ce match. Et c'est pour la 5e fois, puisqu'ils avaient déjà gagné ce trophée à 4 buts. Mais il faut le dire, ils ont vraiment créé la sensation, parce qu'on pensait que c'était Al-Akhli qui allait gagner ce match. Mais encore une fois, ce sommet du football africain a répondu aux attentes, Yacouba.
Merci en tout cas, Amdine. Si je reste avec vous, on va parler une fois de plus de cette super coupe qui s'est, de façon, en fait, d'une manière ou d'une autre, délocalisée du côté de Kingdom Arena de Riyad en Arabie Saoudite. On voit que c'est la tendance, hein, désormais avec la super coupe d'Espagne aussi qui se joue le plus souvent en Arabie Saoudite ou autre. Bonne ou mauvaise chose?
Bon, bonne nouvelle, il s'agit quand même des pays développés comme les pays maghrébins. Parce que lorsque moi j'ai regardé le vendredi le match, j'étais fier parce que moi j'aime regarder les matchs dans un stade archi-comble. Donc comme c'était Zamalek et Al-Akhli, deux clubs venant de l'Égypte qui se sont déplacés en Arabie Saoudite, il n'y a pas eu trop de soucis. Mais si tu imagines cette super coupe se jouer entre un pays, par exemple, de l'Afrique du Nord et un pays de l'Afrique du Sud-Saharienne, mais ça va poser de problème parce que les supporters de ce pays ne pourront pas se déplacer pour pouvoir regarder ce match. Moi, je pense que à l'avenir, si on peut quand même innover en faisant des matchs aller-retour pour permettre aux supporters des deux camps de pouvoir regarder ce genre de match. Mais comme c'était Al-Akhli et Zamalek, deux clubs de deux pays. On pouvait même jouer ce match en Égypte. Je pense que ça aurait été plus populaire et plus accessible pour tous les supporters. Mais c'est quand même une bonne innovation quand même.
Merci beaucoup, Amdine Sy. Le CHAN 2024 aura lieu du 1er au 28 février 2025 dans les 3 pays organisateurs de la CAN 2027, Kenya, Tanzanie, Ouganda. Le Gabon a déclaré forfait, le Gabon qui n'a plus de championnat depuis 2 ans. Et pour parler justement de ce CHAN-là, il est en direct depuis Casablanca au Maroc, Amine Birouk. Bonsoir et bienvenue dans Sporama. Un peu difficile techniquement, mais ça va, on se retrouve.
Bonsoir, Fekouba. On va se débrouiller. Alors, ce CHAN, c'est quelque chose qui est tombé du ciel. Cette édition est tombée du ciel pour la CAF, qui avait déjà bouclé tout son calendrier. Mais elle va l'altérer pour pouvoir insérer une compétition en 3 petits mois, puisqu'elle est prévue du 1er au 28 février dans 3 pays, Kenya, Tanzanie, Ouganda. C'est une sorte de crash test pour la CAN 2027. Mais évidemment, ça va altérer le calendrier des Champions League et de la Coupe de la CAF, qui vont être décalés dans leur phase de groupe au moins d'un mois. Et ce qui est drôle dans tout ça, c'est qu'il y a des contrats télévisés qui sont ficelés, il y a un marketing d'une compétition qui s'appelle la Champions League et la Coupe de la CAF, et visiblement, du côté du Caire et du côté du Sirmo de CP, on a encore oublié à cet impératif qui est important. On a besoin de visibilité pour pouvoir attirer de nouveaux investisseurs et de nouveaux téléspectateurs, et on a besoin surtout de compétitions stables qui sont connues, avec des dates qui sont connues à l'avance. Visiblement, continuer à improviser en Afrique, et on va continuer bien évidemment avec ce CHAN qui aujourd'hui vaut ce qu'il vaut. Il doit faire valoir le joueur local. Évidemment, ça ne doit pas se faire de manière impromptue, ça doit être planifié, préparé et agencé dans un calendrier cohérent.
Amine Birouk, je reste avec vous. Vous avez parlé de calendrier pas du tout stable de ce CHAN-là. Est-ce qu'il y a de vraies raisons? Pourquoi tout le temps, c'est à la dernière minute, on doit désigner le pays? Et cette fois-ci, le nombre d'équipes, 19.
En fait, c'est à ne plus rien comprendre.
19, c'est un nombre surréaliste. C'est pour que tout le monde soit content dans les différentes zones géographiques. Parce qu'on a 3 sélections qualifiées par zone. Alors, imaginez dans la zone UNAF, où il y a déjà probablement le forfait de l'Algérie et l'Égypte, ben il reste 3 sélections qui sont déjà qualifiées. Ils n'ont même pas besoin de disputer des qualifications. Et puis si par malheur la Tunisie emboîte le pas à l'Algérie et à l'Égypte, ben on devra bricoler une sélection dans une autre zone. Donc aujourd'hui, il va falloir que cette compétition qui a eu le mérite d'exister pendant très longtemps pour faire valoriser le joueur qui n'a peut-être pas la chance de porter les couleurs de sa sélection puisque la majorité sont des expatriés, surtout en Europe. Mais visiblement, aujourd'hui, on ne peut pas continuer avec une compétition qui n'est pas rentable et qui est surtout préparée à la va-vite.
Alors, Amdine Sy, je vous relance. Toujours sur ce CHAN 2024, là, je le disais d'entrée, le Gabon a déclaré forfait 2 ans sans championnat dans un pays qui a organisé 2 CAN, peut-être dans un passé pas très lointain, c'est quand même écœurant. Amdine Sy.
Le championnat au Gabon, ça m'a vraiment surpris. Je me demande comment on peut quand même diriger un football d'un pays et ne pas organiser un championnat au niveau local. C'est aberrant, c'est aberrant. Je pense que la CAF a une occasion de voir certaines choses parce que c'est un cas d'école ce qui se passe au Gabon. La CAF doit se pencher sur ce dossier et pourquoi ne pas revoir le règlement en disant que pour qu'un pays puisse participer à des compétitions comme la Coupe d'Afrique des Nations, ce pays doit avoir des championnats. Je ne dis pas même pas un championnat au niveau de l'élitement, même au niveau de la petite catégorie et du football féminin. Il faut que la CAF instaure cela, sinon ça ne vaut pas la peine. Comment le Gabon arrive quand même à jouer sur le plan international, à participer aux éliminatoires de la CAF, de la Coupe du Monde, sans pourtant avoir un championnat? Ce n'est pas normal. C'est ne pas respecter les sportifs et les footballeurs au niveau du Gabon.
Bien évidemment, Amdine, si on aura l'occasion sans doute de revenir là-dessus, mais sans plus tarder, il ne nous reste plus beaucoup de temps. On va enchaîner avec le mondial de futsal. Le Maroc, qui restait le seul pays africain en lice, a été stoppé en quart de finale par le Brésil, Amine.
Le Maroc qui a touché son plafond de verre, comme il y a 3 ans, Lituanie. Un quart de finale face au même adversaire, le Brésil. Une défaite sur un barreau d'honneur, une défaite 3-1. Et le score ne reflète pas la physionomie du match, mais il est vrai qu'il y a eu des détails qui ont fait que le Brésil l'emporte. Les Marocains doivent continuer à grandir. C'est la fin d'une génération et à préparer le prochain mondial dans 4 années. Encore une aberration de la CAN ou de la CAF. La CAN de futsal, c'est tous les 4 ans. La CAN de beach soccer, c'est tous les 2 ans. Allez comprendre.
Alors, Amine Birou, je reste avec vous pour évoquer cette actualité liée à la commission de discipline de la FIFA qui a sanctionné Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football. Interdiction d'assister au match des équipes représentatives du Cameroun pour une durée de 6 mois. Pour un Eto'o déjà peut-être un peu affaibli au plan national, c'est quand même un gros coup.
Ça lui pendait au nez depuis les incidents du match entre le Brésil et le Cameroun en 8e de finale de la Coupe du Monde U20. Évidemment, la commission de discipline de la FIFA n'est pas allée de main morte. Ça fait aussi pencher la balance dans le conflit entre le ministère et la FECAFOOT en faveur du ministère. On connaît un peu les relations de Gianni Infantino avec différents chefs d'État en Afrique et on peut spéculer sur un petit coup de pouce qui est donné au ministère de tutelle dans ce bras de fer qui continue à polluer l'ambiance des Lions Indomptables du Cameroun et du football camerounais. Samuel Eto'o touché, mais pas coulé. On verra comment il pourra peut-être faire appel et voir cette sanction quelque peu allégée. Mais on ne le verra pas lors de la double confrontation des Lions Indomptables face au Kenya dans quelques jours, lors de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025.
Merci beaucoup, Amine Birouk. Merci, Amdine Sy. Merci à Jules Valentin Ngoué et à tous les autres qui n'ont pas pu être dans cette émission Sporama. Malheureusement, beaucoup de soucis techniques. On espère que lundi prochain, on aura peut-être de meilleures conditions techniques pour mieux animer cette édition. En tout cas, merci à vous d'être restés à l'écoute. Sporama revient lundi prochain. C'était un plaisir. Au revoir.